Christ est ressuscité. Il est vraiment. Et cette proclamation, bien nous l'annonçons en chaque matin de chaque dimanche, tel comme s'il était le matin même de la Pâque du Seigneur. Nous commençons chacun de nos dialogues avec lui par cet acte de foi. Nous tentons de rappeler sans cesse à notre âme cette vérité éternelle, alors qu'elle est prise dans le tourbillon de nos temps trop humains. Et nous devrions la dire comme un préambule de chaque homélie, de chaque enseignement, de chaque acte de transmission de foi. Christ est vraiment ressuscité. Car oui, notre âme a besoin de son dimanche, et notre dimanche a besoin de son âme. Et ce repos, cet esprit, ne se trouve que dans le ressuscité. Mais voilà que Paul s'insurge contre les Corinthiens, peut-être même contre nous. Nous avons prêché le Christ ressuscité, et voilà que vous doutez de votre propre résurrection. Voici la contradiction qui guette tous les croyants de chaque époque. Nous pouvons dire « je crois » et parfois, ni nos vies, ni nos mots ne proclament cette foi. Des gueules de carême, aime à répéter le pape François. Comme si le Christ n'avait pas vaincu la mort et le péché, comme s'il ne voulait pas poursuivre sa victoire en chaque être humain, comme s'il ne pouvait être victorieux en chacun et en chacune de nous. Parce que tout simplement, ce qui est dans notre tête, avouons-le, prend du temps pour descendre dans notre cœur, dans l'épaisseur de nos vies, telle, voilà, une rivière, un cours d'eau qui descend de la montagne pour rejoindre la vallée. Eh bien, notre vie, elle, est appelée à descendre de son piédestal, souvent trop factice, trop humain, pour rejoindre la vie même de Dieu au plus profond de nos cœurs. Ce cours d'eau s'appelle les béatitudes. Nous y trouvons un début, un milieu et une fin. Ça n'étonnera personne. Au début de notre descente, nous découvrons une vérité fondamentale. Nous ne savons pas ce qu'est le bonheur. Il est où le bonheur ? Il est où même ? Les chansonniers le répètent. Nous sommes perdus comme si nous étions à chaque fois, à chaque instant de nos vies, devant un meuble IKEA, mais sans avoir le mode d'emploi. Alors nous tentons de faire sans. Voilà, selon ce qui nous paraît raisonnable, selon ce qui nous paraît être joli, selon notre bon plaisir, selon nos vues. Voilà, alors ça peut être un peu de recherche, de la passion, de l'amour humain, une philosophie de vie, une sagesse, une recherche de paix, une sagesse orientale, etc. Mais à la fin, le meuble paraît toujours bancal. Car deux processus s'opposent. Soit nous lancer vers le bonheur, et donc vers Dieu, mais sans lui. C'est ce que fait Adam. Il ne veut pas recevoir la vie éternelle de Dieu, il veut devenir Dieu sans Dieu. Soit accueillir le bonheur et notre perfection par celui qui est à notre origine et en qui réside notre fin. L'Écriture, elle, nous renseigne sans cesse sur ce processus. À tel point, enfin, nous sommes faits pour être heureux, tout simplement. Nous sommes faits pour être heureux. Dans la Bible, le terme revient 366 fois. À savoir une fois par jour, en comptant les années bissextiles. Et déclarer heureux celui à qui Dieu fait grâce, en qui, dont Dieu fait toute sa joie. La première mention est celle de Léa, au chapitre 30e de la Genèse, Léa qui attendait un fils avec impatience, et son vœu se trouve réalisé, alors elle appelle son fils Asher, qui veut dire bienheureux, heureux, joyeux. Voilà en grec « makarios » qui a donné « maker », pour ça que notre frère David Macaire, archevêque de Martinique, est d'ailleurs toujours souriant. Heureux est Israël d'avoir Dieu comme berger, avant la mort de Moïse à la fin du Deutéronome. Heureux l'homme qui habite la maison du Seigneur, qui trouve en Dieu son refuge, qui trouve en Dieu son appui, le répètent sans cesse les psaumes que nous chantons. Alors il ne s'agit aucunement de ne jamais s'appuyer sur autrui. Non, mais de pouvoir le faire parfois au détriment du Seigneur, comme nous l'a rappelé le prophète Jérémie. Et le Siracide l'avait anticipé avec force au chapitre 2e. Jetons-nous dans les bras du Seigneur et non pas dans ceux des hommes, car telle est sa majesté, telle aussi, et sa miséricorde. Au début de cette descente, il nous faut nous jeter à l'eau. Nous jeter dans notre vie, et dans quoi nous jetons-nous ? Dans un bonheur humain ou dans le bonheur même de Dieu. Au milieu, nous trouvons le moyen fondamental pour bien glisser. La pauvreté. Saint Ambroise la présente comme la vertu fondatrice de toutes les autres parce qu'elle dégage, elle nous dégage de l'amour disproportionné de ce monde. Vous savez, ce monde nous rappelle sans cesse qu'il y a mille façons d'être heureux. Une sorte de campagne publicitaire, assez oppressante parfois, qui nous donne d'ailleurs l'obligation d'être heureux, d'être toujours souriant, d'être toujours performant, d'être toujours les meilleurs parents, grands-parents, travailleurs, sœurs et frères, prêcheurs, que possible. Et cela est rappelé en ville sans cesse par ces panneaux publicitaires qui nous rappellent que notre bonheur se retrouve souvent dans les biens qu'ils nous proposent moyennant finances. Bref, beaucoup d'éblouissements pour nous cacher parfois, voire souvent, de la vraie lumière, de ces richesses, de la convoitise dont parlait Jésus au chapitre 9 selon saint Matthieu, qui étouffe, voilà, notre âme, qui peut étouffer, nous diriger vers autre chose. On peut trouver son bonheur dans le soin de sa voiture ou de sa collection de timbres, mais avouez-le, c'est peu pour nous. Nous avons besoin de plus. Pour saint Ambroise, la pauvreté, c'est cette attitude spirituelle du vrai disciple de Jésus, au cœur docile, attentif. Le pauvre est celui qui attend tout de Dieu, qui se reconnaît dans le besoin jusqu'à la fin et jusqu'à en pleurer. Tels des enfants, voilà, Jésus dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui le ressemblent, parce que les enfants ne le savent pas vraiment, ils se rencontreront bien plus tard, mais dépendent entièrement de leurs parents. Comme nous, eh bien, nous avons tout à recevoir de Dieu. Le pauvre est aussi, donc, celui auquel Dieu répond, celui que Dieu comble, pas forcément la façon, d'ailleurs, dont il s'y attend, celui qui permet d'être saint, de grandir dans une perfection qui n'est même pas celle, parfois, de notre propre idéal. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, eh bien, nous cherchons à embrasser la vie consacrée, par exemple. Un frère qui est rentré il y a 35 ans, lorsque son père spirituel, c'était un Lyonnais, loin d'ici, l'avait envoyé chez les frères à Toulouse pour dire « Va au couvent et puis regarde les jeunes, ils ont les projets. » Il dit « Mais non, moi je vais regarder les vieux. » « Comment ça ?»« Eh bien, parce que je veux voir si on meurt heureux. » C'est gentil de rentrer chez des jeunes, mais si c'est pour finir aigri, voilà, aucune chance de m'y voir. Voilà, est-ce que on y est heureux ? Voilà, vous connaissez la phrase de frère Réginald d'Orléans, alors il a duré 3-4 ans, sa vie dans l'ordre, à qui on demandait si c'était pas trop dur ce renoncement, voilà, alors qu'il était professeur d'université, de rentrer dans la vie de prêcheur, et lui de répondre, ben, j'ai trouvé trop de joie, j'ai aucun mérite. Et après quelques années, je me dis, peut-être qu'il le dit véritablement, il a trouvé beaucoup, beaucoup plus de joie, alors que sans, sans compter aussi ces difficultés, ces épreuves, ces hauts et ces bas que nous pouvons avoir en vie commune ou dans notre vie religieuse. Cette pauvreté, eh bien, nous l'avons à chaque instant de notre vie. Pour glisser, nous allons sans cesse devoir nous dépouiller, de dire sans cesse à Dieu, j'ai besoin de toi. Chaque dimanche, j'ai besoin de ton corps et de ton sang. À chaque angoisse, j'ai besoin de ta consolation et de ta paix. En chaque péché, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta joie. J'ai besoin d'être sauvé, parce que nous ne sommes pas, mes frères et mes sœurs, des pécheurs repentants. Nous sommes des sauvés, qui le sommes de plus en plus. Enfin, nous arrivons au bout. Nous trouvons le royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous trouvons le roi de nos âmes, le ressuscité. Lui est déjà là parce qu'il a parcouru les béatitudes bien avant nous. Car au mont des béatitudes, où il a prononcé ce discours, bien répond le mont du calvaire. Il y a l'enseignement d'un côté, il y a sa mise en pratique de l'autre. Les béatitudes, c'est un chemin de croix qui se termine par un chemin de gloire. Chaque chemin de nos croix est là pour être un chemin de gloire. Jésus a réalisé les béatitudes sur la croix. Adam était nu, il se cachait, il s'était dépouillé par sa faute de la gloire divine. Et bien voici que Jésus, dépouillé volontairement de cette même gloire, et bien s'est mis à nu totalement sur la croix, exposé au banc des rieurs, des blasphémateurs, dans l'obéissance et dans l'offrande à son Père, dans un amour infini pour nous. Saint Thomas dit même que Dieu, Jésus, est joyeux sur la croix parce qu'il sait qu'il accomplit une œuvre magnifique, une œuvre merveilleuse. Son cri suppliant « J'ai soif » résonne pour l'éternité à nos cœurs, car il ne sera jamais rassasié pleinement que par notre amour total et entier. Il a pleuré sur Lazare, sur Jérusalem, il a pleuré sur l'humanité à Gethsémani, cette humanité si divisée, si malade, si désespérée, pour que par lui nous ayons accès au royaume où il n'y a ni pleurs, ni tristesse, ni angoisse, ni souvenir des fautes passées, des blessures et des souffrances vécues. Il a connu et continue de vivre la haine, l'exclusion, l'insulte, le rejet, parce qu'il le vit en nous, il le vit avec nous, en chacun de nous. Oui, au cœur des béatitudes, au plus profond de nos âmes, nous trouvons le Christ, le crucifié qui a pris tellement la dernière place, disait Charles de Foucault, que personne n'a pu la lui ravir. Et nous trouvons le ressuscité qui garde une place d'honneur pour nous, où il veut nous y servir, où son Père et lui veulent y faire sa demeure, qui attend qu'un mot de notre cœur, de notre amour, de notre foi. Ce fut la joie du bon larron, le dernier pauvre que Jésus rencontra, et ce sera la nôtre. Leurs chers frères, chères sœurs, Christ est vraiment ressuscité. Donnons-lui pleinement notre foi, notre amour, et vivons pleinement ressuscité en hommes et femmes des béatitudes. Amen.